Bonjour à toutes et à tous. C'est le seul café-théâtre du coin et il compte bien vous faire bouger vos zygomatiques, ces muscles des joues que l'on utilise quand on rit. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de ce café-théâtre vantais baptisé Zygo Comédie. Dans la seconde partie d'A du Pépa, nous rencontrerons Albert Mellet qui se produit en cette fin du mois d'août sur la scène du Zygo Comédie. Connu du grand public pour ses chroniques dans l'émission Le Fou du Roi de Stéphane Bern, Albert Mellet écume également les théâtres depuis quasiment 30 ans. Mais avant de discuter avec Albert Mellet, je suis au Zygo Comédie en compagnie du couple Gaël Veillon et François Legault qui ont ouvert l'établissement il y a de cela 5 ans. Gaël Veillon, bonjour.
Bonjour.
François Legault, bonjour.
Eh bien, bonjour.
Alors tout d'abord, ce projet est né en 2016, après 14 ans dans le Sud, et vous avez décidé de tout quitter pour ouvrir un café-théâtre à Vannes. Comment est née l'idée ?
Alors, en fait, l'idée est née, elle a germé dans le Sud, où moi, je commençais à être un petit peu fatiguée de partir en tournée, puisque j'étais comédienne. François avait envie aussi de changer un peu de boulot. Et puis, nous sommes venus à Quiberon, parce qu'on a une maison, j'ai ma maison de famille à Quiberon. Et un été, on a pu vouloir partir. On était trop bien en Bretagne. Et donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas moi qui ai eu l'idée de monter le café-théâtre. C'est François qui m'a dit, bah, écoute, si tu veux, on n'a qu'à essayer, on n'a qu'à regarder si on ne pourrait pas monter un café-théâtre en Bretagne.
En s'appuyant, j'imagine, sur votre expertise, puisque vous connaissiez le monde du spectacle, vous êtes metteur en scène et puis comédienne depuis 25 ans.
Tout à fait, c'est parce que justement, le pauvre a dû subir mes spectacles, mes tournées. Hein, mais il est venu souvent me voir aussi, il a vu tout ce métier-là. Il a vu aussi l'envers du décor. Et donc, c'est pour ça qu'il a pensé, parce qu'il est quelqu'un de très pragmatique, c'est par rapport à son ancien travail. Il y a pas mal de choses qui sont complémentaires avec moi. Et donc, il a dit, on va cumuler nos deux forces pour monter ce projet.
Alors justement, ici, vous avez décidé de chacun avoir un rôle. Comment vous répartissez les tâches ?
Alors, en fait, on est, comme je disais, là, on est vraiment assez complémentaires parce que François s'occupe aussi de tout ce qui est moins drôle, hein, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, comptabilité, il fait aussi le bar, mais il a aussi des talents artistiques cachés, j'en dirais pas plus pour l'instant. Et moi, je m'occupe de la direction artistique, de la mise en scène, aussi de certaines pièces, pas de toutes, de la billetterie, et puis ensuite la programmation. François s'occupe de la programmation surtout des one, moi la programmation des pièces, mais en fait on ne prend jamais une décision l'un sans l'autre, c'est-à-dire que moi je propose une pièce, il la regarde et on choisit ensemble, et vice-versa.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi Vannes pour ouvrir ce café-théâtre ?
Alors déjà il faut quand même dire que tous les deux, moi j'ai ma famille, mon père était vannetais, et Gaëlle, si elle porte ce joli prénom, c'est qu'effectivement elle avait de la famille du côté de Quiberon. Donc ça joue, ça peut aider à prendre une décision pour venir s'installer ici. Ensuite, deuxième précision, c'est qu'en faisant une étude de marché, parce que c'est une société, un café-théâtre, il ne faut pas oublier que ça reste une société, une entreprise qui a besoin de fonctionner, qui a besoin d'avoir une clientèle, on s'est rendu compte qu'effectivement en Bretagne, et particulièrement dans le Morbihan, il n'y avait pas de café-théâtre. Alors, on a pris le pari de venir s'installer sur Vannes et dans le Morbihan, en sachant qu'on ne savait pas trop si ça allait prendre ou pas. Puisque s'il n'y avait pas de café-théâtre sur Vannes, peut-être que c'est parce qu'il n'y en avait pas besoin ou qu'il y en avait eu et qu'ils se sont malheureusement éteints. Alors, on a quand même fait notre étude de marché. On s'est rendu compte qu'il y avait eu un café-théâtre il y a très très longtemps, mais pour diverses raisons, on n'avait pas pu continuer et qu'il n'y en avait pas d'autres. Et on s'est dit, on va quand même tenter l'aventure. Donc, on a fait un prévisionnel. On est allé démarcher
les banques,
Initiative Vannes également. Initiative Vannes.
On a vendu la maison.
Voilà, on a vendu la maison. On s'est lancé dans ce projet en sachant qu'une banque, deux banques ont répondu présente et on a adhéré avec une banque, dont je tairai le nom parce qu'on ne fait pas la publicité, mais qui a cru en notre projet. Et à partir de ce moment-là, on s'est lancé dans ce projet sans regarder ce qu'on avait laissé derrière nous, parce que on peut vite avoir peur. Donc on s'est vraiment lancé dans ce projet à faire plein de travaux dans le lieu, de manière à ce qu'il soit ouvert 6 mois plus tard.
Au final, vous répondiez à un manque ?
Au départ, on ne savait pas trop et finalement, on se rend compte que oui. Tout à fait.
Bah oui, je pense. Pourtant, Dieu sait qu'on a vu ça sur les sets de table bretons où il y avait bar, culture, où il n'y avait personne. C'est un truc humoristique que mes parents avaient ramené de Bretagne. Mais non, la plupart des gens étaient très, très ravis en fait, qu'on ouvre. Parce qu'en plus, c'est de la culture, mais différente. C'est la culture du rire. Et le rire, il n'y a pas de barrière.
Il y a déjà ici une salle de spectacle un peu plus grande, beaucoup plus grande, même la salle du Palais des Arts de Vannes. Quelle est la différence, justement, entre une salle plus grande et ce café-théâtre?
Mais disons que déjà, la grande différence, c'est que c'est un théâtre subventionné, donc subventionné par l'État, par la municipalité, par la collectivité. Nous, on est 100% privé, on n'a eu aucune aide. C'est vraiment les seules aides qu'on a pu avoir, l'aide de la banque qui nous a prêté des sous, la vente de notre maison.
Initiative Vannes.
Voilà, aussi. Initiative Vannes. Et c'est tout. Après, la différence, c'est au niveau des programmations. Ils ont, comme ils ont des budgets plus importants, c'est une autre forme de culture aussi. Ils peuvent avoir accès à des artistes, il y a des ballets, il y a une programmation qui est super, hein, au TAB. On n'est pas du tout dans le même registre. On ne travaille pas sur les mêmes émotions, sur les mêmes ressentis, sur le même objectif, quoi. Moi, j'ai dit souvent, en venant aux Zigo, on n'en ressort pas plus intelligent, mais on en ressort beaucoup plus détendu.
Il n'y a donc pas concurrence?
Non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est complémentaire.
La particularité également des cafés-théâtres, c'est que ça permet d'avoir une proximité avec les comédiens, notamment de boire un verre ici avant, et puis après rencontrer les comédiens après le spectacle.
Oui, tout à fait. C'est un petit peu la particularité de pas tous les cafés-théâtres. Là, nous, on a voulu effectivement faire un espace-bar pour effectivement créer du lien entre les personnes. On va très bien retrouver dans un comptoir des personnes, des directeurs d'entreprise avec des demandeurs d'emploi, mais la culture permet de réunir ces personnes dans un même lieu. Et ensuite, on peut également, pendant le spectacle, amener son petit verre et regarder le spectacle entre amis, en prenant un petit verre de vin ou un soft ou autre. Et également, effectivement, à la fin du spectacle, retrouver les comédiens pour discuter de la pièce, échanger avec eux sur leur parcours, sur la pièce, sur ce qu'ils en ont pensé. Enfin voilà, c'est un lieu d'échange et de convivialité.
La taille de la salle également, ça permet une proximité avec le public?
C'est exactement ça. Vous avez parlé de proximité, c'est exactement ça. On ne veut pas une salle trop grande. Ça, c'est un choix de vraiment, on était d'accord là-dessus. 150 places, c'est le maxi pour nous. Pour justement garder cette convivialité, ce lien entre eux, voilà.
C'est fait comme un petit cocon, en plus, on l'a pensé comme ça, pour qu'on soit proche, que même si on est tout au fond de la salle, on voit très bien les comédiens et qu'on ne soit pas mis à l'écart, on fasse partie de cette osmose qui se passe.
Et le premier rang est quasiment au pied de la scène?
Le premier rang est quasiment au pied de la scène, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont à 50 cm des comédiens.
Mais il y a des amateurs.
Et il y en a qui adorent, il y en a qui ont plus peur, mais il y en a qui adorent et qui demandent si c'est possible, on aimerait bien être devant.
Est-ce que c'est plus compliqué également pour les artistes qui, s'y font un beat par exemple avec leur blague, le ressentent directement?
Ah, ben ça c'est la comédie. Autant je l'ai vu quand j'étais comédienne où je travaillais aussi sur des sujets plus lourds ou du drame. Un drame, on n'a pas de réaction, on ressent le public, mais il n'y a pas de réaction. Dans la comédie, si une vanne passe pas ou si c'est un bide, on a la réponse de suite. Hein. Et après, ça peut être lourd. On dit on prend les rames, il faut tenir 1h15.
C'est pas donné donc à tout le monde de faire rire?
Non, c'est très compliqué de faire rire. C'est une très belle école, mais il faut aussi beaucoup de technique.
Ça arrive parfois que le public soit pas réceptif à des blagues?
Ah oui, ça arrive. Alors, on croise les doigts, mais on a la chance quand même d'avoir un public qui nous fait confiance et dans le choix des pièces, puisque effectivement, toutes les pièces que l'on programme, ce sont des pièces qu'on a vues et donc que l'on a aimées et que l'on a envie de faire partager en retour auprès de notre public. Donc ça peut arriver, parce qu'effectivement, l'humour... Bah,
voilà, ça peut arriver parce qu'effectivement, comme il y a différents styles de comédie, ou même quand François programme, par exemple, des one, ils peuvent être totalement différents. On essaie justement de varier, parce qu'il n'y a pas une forme d'humour, il y a plein d'humour. Et il y a des gens qui peuvent être réceptifs à tout, mais il y en a un humour un peu plus graveleux, ça ne va pas leur plaire. Il y en a d'autres, ils aiment bien quand c'est un petit peu olé-olé, enfin voilà. Voilà,
Il y a tous les styles d'humour, donc forcément, on ne peut pas plaire forcément à toutes les personnes.
Vous avez une devise ici au Zigo Comédie, c'est une phrase de Gérard Jugnot, « Le rire, c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. » Pourquoi vous l'avez choisi?
On l'a choisi, je crois, parce que justement, c'est comme ce que je disais, le rire, ça ne rend pas plus intelligent, mais ça rend plus heureux. Voilà, c'est-à-dire que si on vient rire... Le rire, c'est communicatif, c'est libérateur, c'est le meilleur antidépresseur qu'on puisse avoir, c'est le meilleur signe de paix et d'apaisement. Quand on rigole tous ensemble, il y a quelque chose qui se passe de magique. Donc ça, on ne va pas changer le monde comme ça. mais on va l'améliorer un peu.
On avait une autre devise mais qu'on n'a pas osé mettre tout de suite sur notre site, mais qui est « Une journée sans rire est une journée de perdu », et c'est Vladimir Poutine qui l'a dit. Enfin, je crois.
Non, pour ceux qui connaissent, ça très bien que c'est Charlie Chaplin.
Ah, vous avez essayé de me tester là, du coup. On est ici à l'intérieur du Zigo Comedy. Alors, pour nos auditeurs qui ne verront pas ce théâtre, est-ce que vous pouvez nous le décrire ?
C'est nous.
Voilà, je crois que le Zigo Comedy nous représente bien. C'est pas très grand. Bon, ça, c'est moi qui suis pas très grand. C'est chaleureux. Je pense que c'est. On a voulu un petit écrin. Quand on arrive dans cette petite salle à l'accueil, on se dit, oh, ben, c'est tout petit. On se demande ce qu'il y a. Et c'est vrai, quand on ouvre les portes, quand on descend ces escaliers et qu'on voit cette petite salle qui est intimiste avec ses petites alcôves et cette jolie petite scène au fond, ben, c'est comme un petit écrin. On rentre dans dans l'intimité du théâtre. Et dans notre intimité, entre guillemets.
Ah, ça fait maintenant 5 ans que le Zigo Comedy est ouvert. Quels sont les spectacles qui se sont succédés ici sur la scène ?
Il y en a eu beaucoup.
Beaucoup.
Il y a eu beaucoup. Il y a à peu près 70 spectacles. Donc, ça va des grandes comédies comme
Le
Clan des Divorcés, avec qui on avait ouvert Dalil Vardar, qui avait fait un gros succès, à des comme Homme-Femme Mode d'Emploi qu'on joue actuellement, Psy, on va vous soigner, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu Dans la peau de ma femme, je regarde un petit peu partout.
Des spectacles pour enfants également.
Des spectacles pour enfants, on a eu le bal des pompiers, on a eu le dîner de cons, enfin voilà, il y a vraiment, vraiment tous les styles. On a eu aussi, Les hommes préfèrent les emmerdeuses, voilà, qui a bien marché aussi. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles. Tous les citer, ça serait un peu compliqué.
Vous regardez les photos parce qu'ici, justement, on peut retrouver quelques-uns des artistes qui sont succédés sur la scène.
Oui, tout à fait. Quand on a commencé avec les comédiens là-bas, qui étaient donc des comédiens connus, où il y a des scènes de Le Père Noël est une ordure et tout ça, et on a dit... Eh bien, quand on a commencé, on a dit on va faire la même chose, mais avec nos comédiens. Que nos comédiens soient mis aussi autant en valeur parce qu'ils ont autant de talent.
Quels sont le retour des comédiens qui viennent ici sur la scène du Zigo Comedy ?
Alors, ils n'ont pas le droit à la parole.
A priori, je crois que ça se passe bien.
Ouais, non, ça se passe bien.
Oui. Non, ils sont contents. Ceux qui travaillent ici, parce qu'on a un noyau dur de comédiens qui travaillent régulièrement avec nous, sont très contents. Et après, on a nos comédiens qu'on importe de Paris, ou c'est ça, hein,
ouais,
ou de Montpellier, ou de La Rochelle, qui viennent et qui sont ravis de venir ici, de découvrir le public Vente, qui est un super public, très chaleureux. Contrairement à ce que certains disaient sur le public Vente, ils sont très ouverts. Il faut juste leur laisser la chance de s'exprimer.
Alors, c'est combien de spectateurs au total qui sont venus ici ?
Alors,
vous avez sorti des chiffres ?
J'ai sorti des chiffres. Alors, on était bien partis. Alors, pour l'instant, hein, parce qu'on a eu quand même 14 mois d'arrêt.
On va en parler.
On est à 104 105 spectateurs.
Avec donc une baisse cette dernière année.
Ah oui, donc on avait commencé la première année avec 16 597, deuxième année 20 000, troisième année 24, quatrième année 27 000. Ensuite, on a eu la cinquième année où on a eu que janvier et février, où on a eu 12 000. Et donc là, on vient de reprendre en 2021 où on est à 3 116.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez été fermé de mars à août, vous avez rouvert en septembre de manière très courte, jusqu'en octobre, vous avez refermé pour rouvrir au mois de juin. Vous avez vécu comment toutes ces fermetures ?
C'est compliqué. C'est compliqué. Après, c'est vrai que la deuxième fermeture au mois de novembre a été, début novembre a été dure. Mais on pensait qu'on allait réouvrir en décembre, puisqu'on nous avait dit qu'on allait réouvrir en décembre. Donc on avait relancé toute la machine pour être prêt en décembre. Ça nous redonnait une motivation. Et donc après, le couperet était tombé et on ne pouvait pas réouvrir. Et il fallait attendre. Donc c'est compliqué.
Entre mars et août, vous avez perdu notamment 130 000 euros de chiffre d'affaires.
Ou voire plus.
Plus. En fait,
les aides n'ont pas permis de combler le manque à gagner ?
Alors, on a été aidé sur la deuxième partie. La première partie, on avait eu l'aide comme toutes les entreprises, mais en sachant qu'on a à peu près 12 000 euros de charges fixes, on avait droit à 1 500. Donc, c'était un peu compliqué. Après, on a eu les aides de la culture. Après, les aides de l'État se sont mises en place. Donc là, je peux dire que si on a été aidé, si elle n'avait pas été là, on ne serait pas là.
Si le théâtre avait été plus récent, peut-être que vous n'auriez pas tenu ?
Ah, c'est clair.
Je pense que oui. Et s'il n'y avait pas eu les aides, on n'aurait pas tenu non plus.
On n'aurait eu que 2 ans d'ancienneté, on n'aurait pas pu rouvrir. c'est simple.
Comment vous vous êtes occupé pendant tous ces mois de fermeture?
Et vous avez vu, vous avez pris 15 kilos.
Voilà. On a cuisiné et puis on a fait des travaux chez nous. Voilà, une maison qu'on devait retaper sans doute. On aurait mis 10 ans. Eh bien, elle est finie. Donc, plus de confinement parce qu'on ne peut plus rien faire.
Vous avez attendu donc la fin du couvre-feu et la fin des demi-jauges pour réouvrir. Mais il y a eu un nouveau coup dur maintenant avec l'instauration du pass sanitaire.
Oui, ouais, le pass sanitaire, c'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense que moi, je préfère le pass sanitaire à une fermeture de nouveau, puisque c'est la seule solution actuellement. Il semblerait que, ben voilà, moi, je ne veux pas qu'on... Je ne veux pas refermer.
Non, c'est un moyen dans une période assez délicate, effectivement, de permettre à des lieux de culturels de rester ouverts. Donc c'est pas évident.
Il y a moins de monde.
Il y a moins de monde, mais ça nous permet de faire notre activité et d'accueillir quand même du public et de leur permettre de passer un bon moment aussi.
Voilà, et d'entendre de nouveau résonner les rires.
Vous avez ressenti donc une baisse de fréquentation ?
Oui.
Oui. Disons que sur la première semaine, on a perdu 60% de la clientèle. Là, ça reprend petit à petit, mais ça reste très très léger. Mais ça va reprendre. Qui plus est, c'est pas la meilleure période, le mois d'août. Donc on espère qu'au mois de septembre, les personnes vont quand même de nouveau revenir au théâtre, malgré ce pass sanitaire. Parce que nous, on commence la saison à l'inverse des commerces sur le littoral. Nous, la saison commence à partir de octobre, novembre, décembre, dans les mois d'automne et d'hiver.
Voilà, donc, les grosses saisons, c'est d'octobre à avril à peu près.
Est-ce que vous avez l'impression que le monde de la culture faisait partie des oubliés de cette crise sanitaire ?
Alors non.
Oui et non. C'est-à-dire oui, parce qu'on n'en parlait pas. On n'en parlait pas beaucoup. Je pense que malgré tout, il y a eu des choses sur le premier confinement, que si les associations ne s'étaient pas bougées, si on n'avait pas fait entendre notre parole, peut-être on n'aurait pas été aidés comme ça. Parce qu'on n'en parlait pas. On parlait pas de la culture, on parlait pas des théâtres, on parlait pas de savoir quand est-ce qu'on allait rouvrir. Quand ils parlaient des fermetures, ils parlaient pas de nous. Mais il y a eu quand même, du soutien du ministère de la Culture, notamment via des aides. Autrement, on n'aurait pas pu continuer.
Alors désormais, vous avez rouvert. Quels sont les artistes qu'on va retrouver ici sur la scène du Zigo Comedy ces prochaines semaines, ces prochains mois?
Alors, nous allons pouvoir revoir les magnifiques Gaëlle Pinero et Perrine de Martre, donc, qui vont jouer dans une pièce qui s'appelle « L'homme parfait n'existe pas ». Ensuite, qu'est-ce qu'on a programmé? On a une super pièce.
On va avoir Albert Mellet aussi, oui. Sur une date. On va avoir
Hypnose.
Hypnose sans contrôle.
Ouais, voilà. Une création.
Une création des Zigo. On va avoir...
comme pièce « Psy, Sex and Fun
ouais. ».
Avec Psy, Sex and Fun avec Carlos de Souza, on retrouve Gaëlle Pinero et Gaëlle Albespire.
On va avoir Par ici la sortie.
Voilà, Par ici la sortie avec Manuel Montero et Fabrice Simon. Pour citer tous les comédiens, c'est compliqué parce qu'ils sont quand même nombreux. Et toutes les pièces aussi, c'est compliqué. Là, on a déjà mis en ligne toute la programmation jusqu'au mois de décembre. Il n'y a plus qu'ensuite les petites surprises, les petits ones, comme Angélique Locard.
Ouais, mais ça,
ça sera ça sans doute en janvier 2022,
ouais.
C'est ça.
Ouais. On peut retrouver donc toute la programmation sur le site internet de Zigo Comedy. On va marquer une pause musicale dans l'émission A du Pépa avant de retrouver Albert Mellet qui est programmé ce soir sur la scène du Zigo Comedy. Pourquoi vous avez choisi de le programmer?
C'est un de nos clients qui a évoqué le fait qu'il connaissait bien Albert Mellet et qui nous a dit mais ça serait bien qu'il puisse venir faire son spectacle dans votre lieu. Alors, bien sûr, j'ai dit hors de question. et ensuite, je connaissais pas trop effectivement l'univers d'Albert. J'en avais entendu parler, j'avais vu surtout son visage qui est quand même assez caractéristique avec cette belle moustache qu'on n'oublie pas. Mais je ne connaissais pas vraiment son univers, donc je suis allé voir sur le net ce qu'il y avait. Et son univers m'a plu. Donc on est rentré en contact avec son tourneur pour définir des dates qui ont été multiples fois repoussées parce que le Covid est arrivé. Mais il était déjà prévu, on a repoussé trois fois. Et on a la chance enfin de l'avoir ce soir. Il a reçu quand même le Devos d'or, remis par Raymond Devos en personne. C'est un univers, vraiment, c'est sur le texte, sur les jeux de mots et l'absurdité. L'absurdité, oui, vraiment, où il y a quand même aussi pas mal de personnes dans sa tête, hein, des fois. Hein.
Ouais.
Mais il a une belle moustache. Donc ça.
On pourra découvrir donc, le personnage d'Albert Mellet dans la seconde partie de l'émission. Je rappelle Gaël Veillon et François Legault que vous gérez ici le Zigo Comedy. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Et on fait une pause en chanson avec Charles Aznavour, Les Comédiens.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens.
C'était Charles Aznavour avec Les Comédiens.
Voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens.
Et tout de suite, on repart au théâtre Zigo Comédie à Vannes.
À du Pépa.
Radio Broadway Net.
Albert Mellet, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, comment vous êtes arrivé ici sur la scène du Zigo Comédie ?
Eh bien, je tourne un peu partout, dans café, théâtre, centre culturel, etc. C'est un ami, j'ai entendu parler du Zigo, donc qui a pris contact avec François, et voilà, et ça s'est fait comme ça.
Vous êtes un habitué des cafés théâtres ?
Ah oui, j'en fais beaucoup, c'est-à-dire que ça fait 30 ans que je fais le métier, plus de 30 ans. Enfin, je fais un peu toutes sortes de lieux, mais les cafés théâtres aussi. L'avantage des cafés théâtres, bon, ici c'est une seule fois, c'est one shot là, cette fois-ci, mais d'habitude on reste une semaine, 15 jours. Donc c'est 4-5 représentations sur 4 jours, ça permet de s'installer, des fois de changer un peu les choses et s'installer quelque part pendant 4 jours, et c'est agréable.
On adapte donc son spectacle en fonction du public ?
Non, enfin, on peut le changer au fur et à mesure des représentations pour arriver qu'on en période quand c'est un nouveau spectacle. Autrement, nous, on garde le même spectacle, mais surtout, l'important, c'est de jouer beaucoup. Je pense que plus on joue, meilleur on est. Un texte qu'on a joué 10 fois, un autre qu'on a joué 500 fois, c'est pas le même. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir, d'être en confort avec son texte. Et donc, faut jouer énormément.
Quelle est la différence entre un café-théâtre et une salle qui serait plus grande ?
Mais la différence, c'est du niveau de souvent des structures. Les cafés-théâtres sont souvent plus petits, mais on joue plusieurs fois. Les salles plus grandes, centres culturels, c'est pas la même. C'est pas toujours le même public non plus. C'est plus un public qui va au théâtre, quand des centres culturels ou le théâtre. Mais je vois pas vraiment de différence. C'est-à-dire, faut s'adapter. Faut s'adapter à la taille, au niveau de la voix, etc. Bien placer ses regards et sa voix en fonction de la taille de scène, mais je vois pas vraiment de différence avec les grandes scènes. Le tout, c'est de prendre le public, quoi, de le faire rire et de prendre la salle.
Peut-être parfois c'est plus dur si une blague, par exemple, ne fonctionne pas, on le voit directement dans une salle plus petite.
Oui, y en a qui passent. Il y a des blagues ou des effets qui passent. À côté, mais bon, j'ai beaucoup d'effets, donc c'est pas grave, il y en a toujours qui passent à côté, on se rattrape sur le suivant, mais en général, ça fonctionne.
Vous êtes Albert Mellet, un Breton né dans les Côtes d'Armor. Oui. Quelle est la situation des cafés-théâtres ici en Bretagne ?
Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a à Rennes, le Bacchus, je crois, mais il n'y en a pas beaucoup. Et alors, c'est dommage, parce que quand j'ai commencé, c'est pas tout jeune, il y a 30 ans, quoi, ce qui ne veut pas dire que je sois vieux. Il y avait un réseau en Bretagne de bars ou de restaurants qui faisaient des soirées spectacles le week-end. Et maintenant, le cirque-là n'existe plus. Il y a tout un réseau de bistrots, etc., qui fonctionne très bien il y a une trentaine d'années, qui était surtout dédié à la chanson et à la musique. Mais moi, j'ai commencé dans ce réseau-là, et maintenant, il y en a beaucoup moins, c'est un peu dommage.
Pourquoi ils se sont arrêtés, à votre avis ?
Ben, il y a les centres culturels, les gens qui vont au centre culturel ne vont pas forcément dans les bistrots, c'est passé de mode, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Peut-être aussi, on les oblige à payer toutes les charges sociales. Avant, ça se faisait comme ça, je ne dis pas que c'est bien, mais ça se passait un peu au blague, etc. Et maintenant, c'est plus possible, donc ça s'est arrêté comme ça. Ouais, ouais.
Vous le disiez, vous avez quasiment 30 ans de carrière et vous avez débuté notamment en montant à Paris en 96.
Un petit peu avant, ouais, je montais en 92, 93. Ouais, ben à Paris, j'ai joué beaucoup. Enfin, j'avais deux maisons, j'ai toujours, enfin une parce que comment le deuxième s'est terminé, mais j'avais deux maisons, le Point Virgule où j'ai beaucoup joué au Point Virgule à l'année, etc., plusieurs années, et j'étais aussi parallèlement, je suis au Caveau de la République, c'était un théâtre de chansonniers, même si je ne suis pas chansonnier, je parle un peu du monde et de la société, donc ça correspondait, on jouait tous les soirs. Donc à Paris, ouais, j'ai beaucoup joué, puis je joue souvent au Café de la Gare aussi. Paris, ça m'a donné la régularité, c'est-à-dire qu'en jouant tous les soirs pendant des années, vous apprenez le métier.
C'est compliqué de faire sa place à Paris ?
Ah oui, c'est pas simple. C'est pas simple, enfin bon, on y arrive. Voilà.
Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi par exemple et que d'autres peut-être n'ont pas réussi ?
Ben, j'ai bossé en fait, hein. j'ai travaillé mes textes, ça fonctionnait pas mal avec le public, ça s'est passé un peu naturellement comme ça. Quoi.
Vous avez été également chroniqueur radio, notamment dans l'émission
ouais,
Le Foot du Roi.
J'ai fait 3 ans, 4 ans à France Inter avec l'émission, d'abord c'était Laurence Boclini, ensuite c'était Berne. J'ai été chroniqueur pendant 3 ans, j'aurais pu continuer mais je préfère écrire des spectacles, parce que c'est la contrainte de la radio, des chroniques... Vous n'avez pas toujours l'invité longtemps avant, il faut faire rire sur 5 minutes sans pouvoir le tester avant, et c'est des fois un peu compliqué. Ça apprend à écrire très, très rapidement, vite, à être réactif, mais moi je préfère écrire des spectacles et les jouer.
Alors vous montez en ce moment sur scène à l'occasion de la sortie de votre livre, le Best-of d'Albert, c'est un florilège de vos 3 derniers spectacles.
Il y a deux choses, là il vient de sortir, la promo se fait en septembre, mes textes ont été publiés. Au Cherche Midi, donc Albert Mondialiste et je le localise qu'en librairie. C'est les sketchs de mes deux avant-derniers spectacles, l'Albert Mondialiste et l'autre je le localise. Et une partie qui est sortie, elle n'était pas encore terminée, une partie de la joyeuse histoire du monde que je présente. Et là, donc, ce soir, j'ai joué un best-of, un florilège de mes 3 spectacles, l'Albert Mondialiste, je le localise et la joyeuse histoire du monde.
C'est des spectacles qui ont connu un certain succès ?
Mais oui, j'ai joué plusieurs centaines, voire des milliers de fois, quoi, l'Albert Mondialiste et je le localise, enfin un succès de scène.
Quels sont les thèmes que vous abordez dans ces spectacles ?
Ben, beaucoup sur la planète, là mettons, je parle aussi bien du réchauffement, des inégalités, de l'éclatement des familles, puis des trucs un peu plus légers comme le sport ou le tunnel sur la Manche, le Big Bang, enfin j'aborde beaucoup de thèmes, et surtout ils concernent la planète et la société actuelle et l'histoire aussi. Sur l'histoire du monde, je prends l'histoire du Big Bang à la fin du monde. Ouais, c'est plus des termes généraux, et je donne mon avis sur ce sujet en essayant, avec toujours la contrainte évidemment d'être drôle, sinon ça n'a pas d'intérêt. Je suis pas journaliste, je suis pas sociologue. L'important c'est de trouver la punchline à chaque fois, de trouver l'effet et d'être cohérent.
Comment on arrive à être drôle justement en parlant par exemple de réchauffement climatique ?
Comme on peut, là. Je termine en disant que si les océans recouvrent les continents, les nouveaux maîtres du monde seront les poissons, les macros de demain seront un peu les Américains d'aujourd'hui. Voilà, le tout c'est de... Le sujet est grave, et même dramatique, mais curieusement c'est plus facile de faire rire sur des sujets tendus et dramatiques. C'est-à-dire, il suffit justement de décaler un peu, ça provoque le rire. Donc plus le sujet est grave, plus le rire est facile, curieusement.
On peut dire que ce sont des spectacles qui sont engagés ?
Oui, mais sans le dire. Je suis pudique, je ne le dis pas. S'engager politiquement, si on le veut, parce que sur les inégalités, l'écologie, oui, c'est s'engager sur les inégalités. Mais je parle de géopolitique et politique, mais je ne parle pas politicien. Mettons, je n'ai jamais parlé ni de Macron, ni de Benoît Hamon, ni de... je ne sais pas, de Pont-Aignan, etc. Je ne parle pas des politiciens, tout simplement parce qu'il y en a qui le font, d'autres collègues qui le font très bien. Et d'autre part, moi j'estime que les gens viennent au spectacle, des fois c'est sans arrêt cette actualité immédiate. J'aime bien prendre un peu de recul et parler d'autre chose. Sur le Covid, je traite le Covid à travers la peste noire. Je parle de la peste noire du Moyen-Âge et je parle du Covid en parlant de la peste noire.
Vous traversez donc souvent les époques hein, dans ce spectacle.
Oui, j'essaie.
En tant que breton, vous parlez également de la Bretagne ?
Oui, j'ai un sketch sur la Bretagne, le sexe de l'Europe.
Qu'est-ce que vous dites, par exemple, sur la Bretagne ?
Je vais vous faire un petit conte, il est très court. Je vais vous faire un petit conte breton, un conte érotique celte. Autrement dit, un conte cochon breton. Voilà, il est très court. Devant l'âtre de la cheminée, dans la bûche que les flammes léchaient, le paysan ses sabots retira et la paysanne sa coiffe ôta. Voilà. Ah, j'ai dit, c'était du celtique hard.
Donc on a eu un extrait en exclusivité. Vous parlez également de la mort ?
Oui, dans les mers mondialistes, ouais, en disant que c'est une chose importante, parce que quand on calcule bien, on est quand même beaucoup plus longtemps mort que vivant.
Comment on arrive encore une fois à faire rire de la mort ?
Ben la mort, c'est pareil, on arrive à en faire rire parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde d'abord, et qui est tendu. On prend le contresens. On se pose des questions sur la vie après la mort, sur les devenirs du corps, etc. Par exemple, je dis d'après les statistiques, on meurt de moins en moins chez soi et de plus en plus à l'hôpital. Donc, d'après les statistiques, si on supprime les hôpitaux, on augmente l'espérance de vie.
Vous dites également dans ce spectacle, j'ai aussi des opinions sur des sujets que je ne connais pas du tout, car j'estime que le droit de se tromper est un privilège qui ne doit pas être réservé aux experts.
Oui, c'est ça. Ben, je donne là, c'est plutôt des brèves, des aphorismes très courts et où je donne mon opinion, par exemple, sur les inégalités. Les 100 personnes les plus riches de la planète possèdent autant que les 4 milliards les plus pauvres. Et donc, je comprends l'amertume, la révolte et la colère de la personne classée 101e fortune mondiale.
Alors, le rire, ça permet justement de dédramatiser de ces sujets de société ?
Oui, de dédramatiser et de rentrer dedans. C'est-à-dire que si on a un effet, une punchline, un effet, on appelle ça comme on veut, qui fonctionne, c'est qu'on a trouvé le point sensible du sujet, ou là où le bas blesse.
Ça arrive parfois qu'une punchline ne fonctionne pas également ?
Oui, mais quand c'est bien réglé, surtout qu'on est en phase de préparation de spectacle, mettons là mon nouveau spectacle, La Joyeuse Histoire du Monde, que maintenant là, voilà, il est au point. Mais au début, ouais, vous pensez que des choses fonctionnent, ça ne fonctionne pas, le public ne réagit pas. Et évidemment, si au bout de 3-4 fois, le public ne réagit pas, ça ne vient pas du public, ça vient de vous, de la formulation, de la phrase. Et c'est des fois très tenu, il suffit d'inverser un mot, etc., pour bien placer les faits, ou d'ajouter un petit truc, une petite fleur, et ça fonctionne. C'est une histoire de réglage.
Vous testez parfois vos blagues sur vos proches ?
Un peu, d'une part, j'ai pas envie de les gonfler avec mes histoires, et d'autre part, oui, je teste, mais c'est le public. Parce que une vanne ou un effet marche, mais il y a contexte aussi. Il faut que... J'ai pas un spectacle qui fait que de punchline, c'est cohérent, c'est des histoires. Donc, une histoire cohérente longue, on ne peut ne la tester que dans son intégralité, sur la longueur, et que devant le public.
Alors vous le disiez, vous êtes sur scène depuis 30 ans, vous avez vécu un petit peu comme tous les artistes la fermeture des salles de spectacle, vous l'avez vécu comment vous ?
Ben, c'était un peu compliqué parce que j'étais à Paris et le confinement ça n'a pas été facile, donc plein de dates annulées, reportées ou quasiment annulées, donc c'était un peu dur, mais j'ai bien vécu, j'en ai profité pour écrire, j'ai mis au point mon nouveau spectacle, j'ai écrit d'autres choses, donc un peu de retraite, d'immobilité, ça m'a fait du bien, parce que ça fait 30 ans que je fais le métier, donc je me déplace quand même pas mal, et là pendant un an et demi, cloîtré, il y a eu un côté positif quand même.
Ça fait quand même du bien de remonter sur scène ?
Ah oui.
Il y a un besoin de rire en ce moment ?
Oui, il y a un besoin de rire, mais... Vous savez, j'ai joué au Caveau de la République, c'était une salle qui n'existe plus, c'est la République, mais c'est plus dédié à l'humour. Alors j'ai discuté, quand j'ai commencé avec les anciens, les chansonniers qui avaient 30-40 ans de métier, ils me disaient, on a toujours dit ça, le public, ça fait du bien, on a besoin de rire. Mais il y a eu tellement d'événements de la guerre à maintenant, la guerre d'Algérie, le Vietnam, Fukushima, la guerre du Golfe, il y a toujours des épisodes douloureux, ou en France ou dans le monde. C'est une histoire, l'histoire n'est pas gaie, donc chaque période a ses drames. Et justement, le rire permet un peu de s'en évader et aussi d'en parler.
Alors Albert Mallet, je rappelle, vous êtes sur la scène du Zigo Comedy ce soir. Pour terminer, si vous aviez un souhait pour le monde du spectacle pour ces prochains mois, quel serait-il ?
On va qu'on puisse jouer. Tout simplement que les salles rouvrent, que le public revienne et que ça reprenne, tout simplement, parce que que le spectacle vivant même revive, même redouble de spectateurs. Je pense qu'il y a Il n'y a rien de tel, c'est pas un écran, le spectacle vivant, c'est la scène, le public, surtout le one man, on est tout seul face au public, et ça on peut pas le faire sans salle.
Espérons que votre souhait sera exaucé, Albert Mallet, merci.
Bien, merci.
On termine en chanson avec Georges Brassens et le morceau Hécatombe.
Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves Pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore, sous la forme de Maccabée, de la mansarde où je réside. J'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ceux qui passent à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deniers, ces furies comme outrage ultime en retournant à leurs oignons. Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas.